Jérôme Attal qui publie 37 étoiles filantes, c'est aux éditions Robert Laffont. Jérôme Attal qui vient d'être couronné, je dois dire, yes,
bravo.
Voilà, du prix de la rentrée décerné donc, au Salon des écrivains à Champs-aux-Préloches, les écrivains chez Gonzague Saint-Brie. Surprise, ce premier prix de la rentrée.
Ben oui, puis j'ai pris ça surtout comme un encouragement, donc je suis très heureux et pour la suite, parce que la rentrée littéraire, c'est toujours une bataille. Enfin, moi, c'est ma première rentrée littéraire en même temps, donc, mais j'étais très heureux, surtout que ce que j'ai dit là-bas, c'est que Gonzague, ça m'a fait beaucoup de peine, sa disparition, parce qu'on se voyait souvent dans les librairies, dans les salons du livre, on était comme ça, une espèce de chevalerie des auteurs le week-end, un peu éparpillé dans toute la France, et donc c'était quelqu'un que j'appréciais et que j'aimais beaucoup. J'avais lu son livre, là, Les vieillards de Brighton. Je lui avais dit un jour « Ah, mais Gonzague, j'ai adoré votre livre Les fantômes de Brighton. » Et il m'avait regardé avec un regard malicieux, il m'avait dit « Les fantômes, vous voulez dire les vieillards ?» Voilà.
Alors on va revenir à ce livre, 37 étoiles filantes. Alors nous sommes dans le Paris des années 30, fin des années 30, dans le quartier de Montparnasse, avec un personnage bien particulier, haut en couleur, Alberto Giacometti, et qui est venu avec un dessin bien particulier à Paris.
Oui, alors Alberto Giacometti, il vient pour sculpter, hein, il arrive de Suisse, et Jean-Paul Sartre, de l'autre côté, arrive du Havre, où il était professeur, et tous les deux se retrouvent à Paris, à Montparnasse, dans les années fin 37. Et pendant que Giacometti est à l'hôpital, car il vient d'avoir un accident de la circulation, une Américaine, au volant d'une Américaine, lui a rentré dedans, il arrive directement à l'hôpital, et pendant qu'il est à l'hôpital, cette langue de vipère de Jean-Paul Sartre raconte dans tout Paris « Ah, il lui est enfin arrivé quelque chose ». Donc mon roman part de là, j'imagine la fureur d'Alberto Giacometti à l'hôpital, il n'a qu'une idée, c'est sortir de l'hosto et aller casser la figure à Jean-Paul Sartre.
Alors quel destin tous les deux quand même.
Quel destin. Et ce qui est intéressant, c'est que tous les deux vont être connus après-guerre. Donc en 37, on est vraiment dans leur balbutiement, dans leur début. Tous les deux vont avoir une renommée nationale et internationale après la guerre. Giacometti avec le célèbre « Homme qui marche » et Sartre avec l'existentialisme qu'il n'a pas encore formulé aussi bien qu'il le fera dans les années 45-46.
Alors qu'est-ce qui les réunissait à l'époque, si tant est cette... c'est pas une haine, mais finalement c'était une sorte de conflit.
Oui, pas vraiment. Lorsqu'il les réunit, c'est vraiment Montparnasse. Ils sont tous à Montparnasse et le conflit ne vient que parce que l'un a dit une vacherie sur l'autre. Mais sinon, tous les deux sont dans des domaines différents. La sculpture, l'histoire de l'art pour Giacometti, la philosophie pour Jean-Paul Sartre. Donc a priori, ils n'ont aucune raison d'être jaloux les uns des autres.
Alors comment vous est venue l'idée d'écrire ce roman? C'est un roman roman-roman ou est-ce que c'est un roman avec évidemment un fond de vérité
Alors l'anecdote est réelle parce que je l'ai lu chez le peintre Balthus à qui on a demandé « qu'est-ce que vous pensez de Giacometti ?» et Balthus raconte cette anecdote de Giacometti à l'hôpital et Sartre qui fait sa langue de vipère. Et après je suis juste parti de cette petite phrase, cette petite anecdote pour dresser un portrait de Montparnasse et d'essayer de faire une comédie endiablée et tourbillonnante avec, je l'espère, pas mal de réflexions aussi sur ce qu'est être un artiste à l'époque et aujourd'hui.
Alors c'est vrai que Montparnasse, l'école de Montparnasse, Montparnasse était entouré d'ateliers d'artistes de tout poil.
Oui, d'ailleurs Giacometti avait son artiste dans le fin fond du 14e, donc un peu en dessous de Montparnasse, mais Montparnasse était son terrain de jeu, de chasse, d'inspiration. Voilà, c'est là où il rencontrait des filles, c'est là où lui venaient des idées, c'est là où il avait envie de plaire, de séduire. Et finalement la même chose pour Jean-Paul Sartre, parce qu'il va habiter rue de l'Ambre, dans un petit hôtel de la rue de l'Ambre pendant une année, et c'est là, à ce moment-là, où se déroule l'action du livre.
Le Paris d'avant-guerre à travers deux personnages, Alberto Giacometti et Jean-Paul Sartre. Je dis personnages à dessein justement parce que ce sont au-delà de l'artiste tous les deux et de l'écrivain de l'autre, ce sont devenus des personnages.
Oui, ce sont devenus des personnages très emblématiques, ne serait-ce que par leur physique, parce que c'est un espèce de géant, Alberto Giacometti, et l'autre est plutôt un petit nain, Jean-Paul Sartre. Donc effectivement, même physiquement, c'est déjà deux personnages totalement différents et tous les deux avec une espèce de rage intérieure.
37 étoiles filantes, le titre.
Parce que ça se passe en 37, donc ça fait référence à l'année. Et puis étoiles filantes, parce que tous ces personnages et tous les autres qui les entourent à Montparnasse ont un destin d'étoiles filantes. La guerre arrive, on va être en 40, tout le monde va partir, Giacometti va fuir en Suisse, va aller se réfugier en Suisse. Et voilà, ce sont les derniers feux d'insouciance de Montparnasse.
Merci Jérôme Attal. Donc 37 étoiles filantes chez Robert Laffont pour bien découvrir cette anecdote et puis l'histoire d'Alberto Giacometti et de Jean-Paul Sartre par le petit bout de la languette de Montparnasse. Merci à vous.
Merci beaucoup.